7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Alors si vous êtes un jeune diplômé ou un peu plus expérimenté, si vous avez un projet dans le domaine des services, de l'agroalimentaire, de l'énergie ou pourquoi pas aussi dans le domaine culturel ou social, c'est le moment de nous contacter dans le studio. C'est le retour du coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel.
Directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Vous vous mettez chaque mois à la disposition des auditeurs qui ont des idées pour leur continent, mais qui ne savent pas toujours comment les concrétiser ou qui ont déjà démarré une entreprise mais qui sont assaillis par tous les problèmes des patrons et qui butent sur de très nombreuses difficultés aussi de commercialisation, de distribution, mais aussi bien sûr de financement. Le financement, c'est le nerf de la guerre pour démarrer une entreprise. Alors de votre côté, les voisins, bien sûr, la règle, elle est très simple. Vous devez être capable d'exposer de façon synthétique votre projet. Et Didier, pas de langue de bois, vous challengez nos voisins, nos voisines, et vous nous dites ce que vous en pensez de manière très cash.
Et de temps à autre, drapeau rouge et on râle.
C'est le rendez-vous en tout cas des JPAG, on a appelé ça comme ça, vous vous souvenez, ça y est, ce que veut dire notre acronyme.
Oui, c'est ceux qui gagnent, non, c'est ça.
Jeune patron de l'Afrique qui gagne. Allez, appelez-nous les voisins et les voisines, on discute de l'entrepreneuriat aujourd'hui au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi nous envoyer vos projets par mail tout au long de l'émission. Pour passer dans l'émission suivante, vous vous adressez bien sûr à Camille qui reçoit vos projets à 7milliards@rfi.fr.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Akwété.
Didier Akwété, vous étiez au Rwanda la semaine dernière.
Oui, effectivement, il y avait la quatrième édition du forum qui s'appelle Transform Africa, dont surtout la partie Smart Africa, qui se veut une rencontre annuelle de promotion des technologies, de ce qui change et de ce qui peut changer l'Afrique rapidement, en s'appuyant sur les technologies. Vous savez par exemple qu'au Rwanda, la livraison des médicaments avec les drones, c'est une innovation. Aujourd'hui, les transports urbains avec des cartes magnétiques qui deviennent des cartes universelles de transport urbain, mais également d'accès à des services, tout ça, ce sont des évolutions importantes. Et donc Smart Africa, surtout, est un révélateur des innovations en cours actuellement en Afrique. Et c'est vraiment formidable de voir justement que cette transformation qu'on voit à travers les projets que nous recevons, sont cristallisées à travers un forum comme celui-là, avec beaucoup d'innovations. Et je crois que l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment toutes ces innovations, que ce soit au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, on peut faire bénéficier les petites entreprises, les PME de ces innovations.
Il y a du numérique partout, on va dire. Mais ça veut dire pour les jeunes qui nous écoutent, là, qu'il faut être à l'affût, il faut se renseigner, il faut peut-être absolument se rapprocher des techniques informatiques, quel que soit le projet professionnel auquel on se destine.
Ça veut dire effectivement que les technologies, entre guillemets, bouscule énormément tout ce qu'on fait aujourd'hui. L'entrepreneur aujourd'hui, en intégrant la technologie, peut changer complètement son modèle, son modèle d'affaires. Et puis surtout, c'est que tout le monde pense dans un coin qu'il est le Einstein de demain, alors que peut-être il y en a d'autres dans d'autres parties du continent qui inventent les mêmes choses. Et l'idée, c'est aussi d'être un peu informé de ce qui se fait, des technologies qui arrivent, et les amplifier, surtout les mettre à la disposition des entrepreneurs.
C'est ça. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur qui réussit, c'est l'entrepreneur le plus agile, finalement, aussi avec les nouvelles technologies, même pour commercialiser, pourquoi pas, des produits de beauté.
C'est fondamental. C'est-à-dire on crée des ruptures avec les technologies. Et l'exemple le plus courant aujourd'hui, c'est la banque. C'est-à-dire que la banque aujourd'hui ne pourra plus exister si les technologies ne lui servent pas de relais, de levier pour aller plus vite. Alors qu'avant, la banque restait la banque avec des murs, des immeubles.
Ça, c'est sûr. On a son porte-monnaie dans son téléphone, comme vous, Didier.
Exactement. Donc beaucoup de changements.
Alors Didier, je redonne le numéro de téléphone et nous allons accueillir un premier projet. 33 1 84 22 71 71. Nous donnons la parole à Mohamed qui est à Bua, au Cameroun, dans le Cameroun anglophone. Bonjour Mohamed. Mohamed, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Mohamed, bonjour. Vous avez 23 ans. Vous êtes étudiant en géographie à Buéa, où évidemment l'ambiance est tendue sur le campus. Vous êtes nombreux, vous, les étudiants en zone anglophone, à être tentés d'ailleurs par l'abandon de vos études. En tout cas, vous, ce qui vous fait vraiment tenir, c'est que vous avez un projet auquel vous croyez très fort, qui est un projet de salle de jeux vidéo à Buéa, qui serait une salle de jeux vidéo implantée justement tout à côté du campus, hein, si j'ai bien compris, qui s'appellerait Gameland Maniac.
Oui, évidemment.
C'est ça.
Ok, bon.
Allez-y, Mohamed, vous êtes en direct, hein, on vous écoute.
D'accord. Bonjour Emmanuel encore et bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Mohamed.
Mohamed.
D'accord.
Oh, bon.
Y a des Emmanuels partout.
Bah oui,
maintenant,
évidemment.
Hein.
Bon, le nom, j'ai décidé de donner le nom de ma salle Gameland Mania. Pourquoi? Parce que je me suis dit Gameland pour une paire de jeux vidéo et Mania pour les passionnés de jeux vidéo. Mm. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je dis ça parce que j'ai eu à fréquenter à l'université et dans ma chambre d'environ 10 mètres carrés, il y avait que des amis et les amis des amis qui venaient toujours chez moi, et même ceux que je n'avais même jamais rencontrés, qui venaient juste, ils toquaient et genre, ils sympathisaient un peu, juste pour pouvoir me demander après s'ils peuvent jouer à une console.
Ah oui, et parce que vous étiez particulièrement équipé, donc il y avait la queue devant votre chambre, d'accord, d'étudiant.
Et vous arrivez d'étudier Mohamed
oui.
ou de jouer
oui.
oui.
Bon, alors donc vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, c'est votre passion depuis tout petit, à tel point que vous êtes dit, mais pourquoi ne pas en faire un business, une vraie entreprise, pas seulement une petite location de jeux dans votre salle, dans votre chambre d'étudiant.
Évidemment. Et en fait, ce qui m'a le plus motivé, c'est quoi? Parce que les jeux coûtent extrêmement très cher, donc environ 150 000 francs et disons environ 22 euros français. Mmh. Et c'est pas possible, et c'est pas donné à tout le monde au Cameroun.
Ça, c'est juste pour une cartouche, hein, c'est ça. Mais en plus, il faut la console, il faut être équipé.
Cher,
hein.
Bah oui.
Oui, évidemment. Qui pèse environ, disons, les 300 euros.
Mmh. Et c'est mais, alors, ceci dit, à Buéa, il y a déjà des salles de jeux vidéo qui sont accessibles à tout le monde.
Bon, je dirais oui, mais c'est encore traditionnel, où les salles ne sont pas climatisées, pas confortables, et beaucoup de vols et de bagarres, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas venir avec un peu de renouveau.
Ouais, qu'est-ce que vous appelez concrètement du renouveau? Qu'est-ce qui va vous différencier de la concurrence des salles existantes à Buéa?
D'accord, bon, je pensais à déjà 4 consoles PlayStation 3, parce que si on voit plus les consoles PlayStation 2 ou disons PlayStation 1, mm. qui est déjà démodé, mm. et les écrans plasma, je trouve que la plupart des salles, sinon presque pas de salles, sont équipées avec. Et les sièges confortables et aussi climatisés.
Mm. Donc en fait, des salles de jeux vidéo, dernier cri grosso modo, hein?
Oui.
Et comment vous comptez vous faire connaître? Je sais que vous êtes en train de créer un groupe sur WhatsApp.
Oui, oui, oui. Bon, tout récemment, j'ai rencontré certains potes qui m'ont convaincu qu'ils pouvaient m'aider à lancer le business en termes de marketing. Déjà, ils ont un groupe d'environ 250 personnes qui pourront suggérer à mon groupe. Donc, ils pourront entrer. Et de là, alors, je vais créer une petite compétition, disons, d'une semaine gratuite.
Ah, mm.
Là, tout le monde peut venir essayer tous les jeux qui vont varier, tel joueur à tel jeu. Et comme ça, après ça, ça va aller de bouche à oreille.
Mm.
Et le message sera passé.
Ouais, vous comptez vous faire connaître à partir d'un événement, d'un concours, c'est pas bête. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour que ça démarre? Quels sont vos problèmes que vous souhaitez soumettre à Didier Akwété, Mohamed?
D'accord, premièrement, c'est finance, déjà. Mm. Parce que toute la somme, c'est environ le 1 million de francs, je crois, environ 1300 euros. Mm. Oui.
Pour équiper la salle avec les consoles de jeux vidéo.
Mm. Oui. Et bon, pour la question à Didier, j'aimerais bien savoir vers qui me tourner pour avoir un financement. pour ce style de projet. Et ma deuxième question est, en fait, j'ai entendu parler du crowdfunding. Donc, j'aimerais bien savoir si ça peut marcher pour mon projet.
Bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée déjà de salle de jeux vidéo ?
Attention, il faut que la jeunesse s'amuse. Nous, quand on était petits, on avait aussi allumé des salles de jeux qui étaient remplies, qui ont disparu avec le temps. Mais effectivement, un espace de jeu dans son environnement tel qu'il le décrit peut effectivement être une opportunité de business.
Adossé au campus, sachant que lui-même est déjà célèbre sur le campus, si j'ai bien compris, pour sa petite chambre.
Et que lui-même déjà est déjà un vieil entrepreneur qui faisait ça quand il était étudiant. Mais plus sérieusement, le modèle tel qu'il le décrit, avec le confort qu'il suggère, à mon avis, le million d'investissement me paraît un peu faible. Donc, ça veut dire que déjà, le dimensionnement de son business devrait être revu, et aussi le modèle économique. J'ai vu les tarifs qu'il veut appliquer. Je ne sais pas si l'investissement, qui à mon avis sera supérieur à 1 million, sera couvert par le modèle que j'ai lu dans son document, si surtout il n'a pas des activités annexes. Mais on pourra en parler. Mais sur la question de financement...
Oui, parce que le problème, c'est qu'il faut attirer les étudiants, donc avec des tarifs assez bas.
Des tarifs assez faibles. D'autant plus que certains ont, c'est vrai, des consoles et vont jouer chez les copains, comme on faisait également chez lui. Donc je pense qu'il faut créer des activités connexes qui permettent aux jeunes venant jouer de faire d'autres choses, et puis peut-être aussi, c'est vrai, de consommer. Mais sur la question principalement du financement, effectivement, je crois que le crowdfunding serait une bonne option, et on l'a vu d'ailleurs pour des jeux. Vous vous souvenez, Emmanuel,
pour un jeu vidéo,
c'est Kyrios, je crois, de Mémoire Game, qui avait réussi à lever presque 100 000 euros sous forme de...
Qui est passé dans l'émission et qui a démarré maintenant. Oui.
Exactement, qui tourne aujourd'hui. Donc je pense que le crowdfunding me paraît être ce qui est le plus adapté, parce que je ne vois pas une banque aujourd'hui vous prêter de l'argent pour une activité de ce type qui pour elle génère pas beaucoup de revenus et puis un peu trop aléatoire. Donc je pense que le crowdfunding est une bonne opportunité pour vous, et puis surtout ce qu'on appelle le friends and family. Si vous avez des copains qui adorent jouer, eh ben qu'ils mettent un peu de sous au début, et ils vont jouer gratuitement pendant quelques semaines. C'est-à-dire ils prépayent entre guillemets leur jeu. Et puis surtout, dans votre modèle, le principe de l'abonnement me paraît important pour ne pas être sujet aux fluctuations d'abord du marché, parce qu'il suffit que quelqu'un ouvre également un game center comme le vôtre, ou que tous les copains qui ont des consoles fassent ce que vous faisiez quand vous étiez étudiant, et vous vous retrouverez avec des salles un peu vides, quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, le fait d'associer d'autres activités dans le cadre du Game Center, d'avoir un principe d'abonnement, de faire payer les contributeurs qui veulent jouer très en amont, sera une sorte de fidélisation également avant de lancer le projet.
Est-ce que ça, Mohamed, c'est quelque chose que vous avez testé auprès des étudiants qui venaient fréquemment jouer dans votre chambre et emprunter le matériel de jeux vidéo ? Sont-ils partants pour prépayer déjà plusieurs semaines de pratique de jeux vidéo ?
Bon, oui. En fait, c'est aussi une idée que je pense à créer une application qui pourra faciliter le prépayer. Bon, de là, alors, voilà.
Ouais. Mais pourquoi une association, en fait, pour vous assurer les cotisations, c'est ça, des membres, Mohamed ?
Oh, oui, en quelque sorte.
Oui, oui, pourquoi pas une association, mais il faut que l'association offre un certain nombre de bénéfices. Exemple, si vous êtes adhérent de l'association, bien sûr, vous pouvez venir jouer tant, mais vous avez aussi accès, je sais pas, à une bibliothèque électronique quand vous êtes là. Vous avez accès à des services que les étudiants recherchent peut-être sur le campus et qu'ils n'ont pas. Comme ça, vous faites une sorte de one-stop-shop pour les étudiants, où il peut venir jouer, mais également avoir d'autres activités pour justifier qu'ils adhèrent à l'association avec le principe d'abonnement. C'est pour ça que je pense que ça serait bien d'imaginer des services connexes que les étudiants pourraient éventuellement, dont ils pourraient avoir besoin, quoi, pour justifier l'abonnement et peut-être l'association, mais qui n'est peut-être pas forcément justifié.
Mohamed, vous y avez pensé à ces activités connexes pour essayer de faire rentrer de l'argent aussi autrement ?
Oui, j'ai eu à penser à ça. J'ai créé, avoir une cantine ou juste pour concevoir tous les gamers dans la salle.
Ah oui, d'accord. Donc un petit peu de nourriture.
Un petit bar,
bon, ça fait pas toujours bon ménage avec les ordinateurs hein, en général, mais enfin, et des consommations, hein, c'est bien ça finalement.
Oui.
Bon, Mohamed, donc je crois que vous avez compris le message de Didier à côté. Ce sont pas les banques qui vont vous prêter de l'argent sur ce type de projet. Donc il faut vraiment miser sur le crowdfunding et puis mobiliser autour de vous la petite communauté étudiante. Il y a combien d'étudiants sur le campus de BUEA à l'heure actuelle à peu près?
Bon, à peu près, je dirais, ça ne dépasse pas les 5 000.
Non, mais c'est déjà bien. Mais Mohamed, je crois qu'au-delà de l'idée du Gameland, si vous avez vraiment des jeunes qui sont créatifs, qui adorent le jeu, qui eux-mêmes peuvent créer des jeux, vous pouvez absolument, à côté du Game Center, créer un petit incubateur où les jeunes qui ont envie de créer viennent justement se retrouver, développer des idées nouvelles. Et du coup, vous allez voir peut-être à terme, c'est pas le Gameland qui va vous faire gagner de l'argent, mais c'est peut-être l'incubateur d'idées nouvelles, de jeux qui vont être créés dans le cadre de votre Gameland Incubation, avec des investisseurs qui pourraient venir s'intéresser à toutes ces créations, à ces nouveautés. Donc peut-être ne vous limitez pas simplement à faire jouer les gens, mais...
Attirer les talents. Tout ce qui bouge.
Exactement. Et créer un petit incubateur à côté où là, du coup, vous êtes au fait des dernières technologies. Parce que généralement, ceux qui jouent ont des idées. Et dans les joueurs, il y a parfois des programmeurs, des génies en herbe. Et ça serait dommage de passer à côté de ça. Donc, du coup, ça fait deux projets en un. Et le deuxième projet me paraît un peu plus structurant, voilà. et plus porteur que
Et le continent africain manque de dizaines de milliers de développeurs et de programmeurs, on ne le dit jamais assez. Alors tous les petits génies de l'informatique, là, il faut absolument vous retrouver et vous fédérer pour monter des projets.
Oui, et c'est ce que Google, c'est ce que les Facebook sont en train de faire en Afrique, former plein de programmeurs. Et justement, le forum de Kigali Smart Africa s'inscrit dans ces dynamiques. Donc Mohamed, vous pouvez étendre votre projet et faire
voyez
autre
plus
chose
loin,
que le
Game comme
Center.
Dit souvent Didier, voir toujours plus grand et plus loin que le projet lui-même. Gameland Maniac, ça s'appellera. Donc, bien sûr, on vous souhaite bonne chance, Mohamed, et vous nous tenez au courant. À très bientôt. Bonne journée à BUEA. Et puis, gardez le moral après plusieurs mois d'interruption d'Internet au Cameroun anglophone. Internet maintenant rétabli. C'est bien que les jeunes continuent d'avoir des rêves et des projets, y compris dans les situations les plus difficiles.
Merci à vous,
Mohamed.
À bientôt, Mohamed.
Didier. On se retrouve juste après pour un autre projet, ça sera juste après Run the Jewels. Early morning rising reef for cheap. You pay the most, but me, I get it cheaper. Strong rapper reefer, rapping in a big cohiba. I get so high, I close my eyes and swear that I saw Jesus. I take another token, goddamn, I feel comatose. I double cup and that's what up and now I'm leaning, folk. I'm talking any given Sunday, Willie Beeman, ho. My bitch say that I get too high and might kill my brain. I tell her that she talks too much and she should get some brain. We used to fuck a lot, but now you just fussing complain. What a fucking shame, hit the door and hit the block. Avoid the walking dead, the zombies still hunting rock. My days are wasting time, slanging dimes is way behind. I'm still trying to be a moving with a mason's mind. I will get a meal, ain't nobody taking mine. You sorry suckers, see you saps at the finish line. You know I steady grind. I stay higher than Messiah, I ain't never got it. You see them dual runners coming, boy, we body body. We bout that OPP, we digging other people pockets. Keep it cool, run the jewels, ain't no other way around it. I want the rings and the chains, run the jewels. I want the watches and the braces, run the jewels. We at the table eating everybody food. Hey. Invasion of the chains, that's been up on some move. I'ma tell me I'm running with more than fucking scissors. I'm the Cadillac, I'll fuck you back off and you bitches. You the Cadillac, a fucker, just suck at this rap shit. I'm the Cadillac, a suck it, I'm fucking disastrous. Ça vous plaît ce petit programme mis en onde par Udo Violas, Didier Akwété?
Eh bah, t'as bien vu qu'on dansait dans le studio
Boss
avec
no
Eden.
Voilà, sont des rappeurs. L'un de New York et l'autre d'Atlanta. Ça vous est tout spécialement dédié.
Merci
Didier
Emmanuel et
Akwété.
Hugo.
Avant qu'on se quitte pour le flash, je voudrais dire bonjour à Edem, porteur de projet, qui est une entreprise d'ailleurs qui existe depuis plusieurs années. Bonjour Edem.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes franco-togolais, on est ravis de vous accueillir dans le studio en personne et vous allez nous parler de cette gamme de produits pour bébés à peau noire. La gamme existe déjà en France, ça s'appelle Onea, c'est bien ça?
Tout à fait.
On va en reparler parce qu'évidemment il y a de l'expansion vers le continent africain en ligne de mire. Juste après.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. C'est le rendez-vous de tous ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain, comme chaque mois, vos projets, les voisins et les voisines d'ailleurs. Hein. On aimerait bien entendre plus souvent des voisines, quoique hein, ces derniers temps, on a eu pas mal d'entrepreneuses. Oui, tout à fait. Elles sont nombreuses maintenant dans les écoles de commerce à elles aussi vouloir devenir patronne. L'écoute attentive, bien sûr, dans le studio de Didier Akwété et ses conseils pour dépasser les difficultés qui bloquent vos projets. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et puis, si vous avez envie de passer dans l'émission, mais que vous ne vous sentez pas prêt, que peut-être votre business plan n'est pas encore tout à fait ficelé, vous avez envie de préparer votre intervention, vous nous écrivez également à 7milliards@rfi.fr. C'est Camille qui reçoit vos projets, qui discute avec vous et bien évidemment ensuite qui vous aide pour passer à l'antenne. Nous accueillons donc Edem qui est dans le studio, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en chair et en os. Je le disais juste avant le flash, Edem, vous êtes franco-togolais.
Tout à fait.
Votre parcours, en fait, vous avez fait des études en France. Hein, vous avez d'ailleurs été, vous avez travaillé longtemps dans la pharmacie.
Tout à fait.
Non pas en tant que pharmacien, mais plutôt en tant que commercial. Hein, vous avez un profil de commercial.
C'est ça.
Et vous avez monté il y a quelques années une ligne de produits. Alors, assez peu connue, c'est une gamme de produits pour bébés et enfants à peau noire en France, hein, pour le moment, sur le territoire français.
C'est ça.
Qui s'appelle Onea.
C'est ça. Donc, Onea, effectivement, c'est une gamme de produits pour les bébés peau noire mathématisés que j'ai mis en place il y a 7 ans déjà. Donc, le bébé commence à grandir. Et le but, c'est tout simplement apporter une solution aux mamans qui ont des enfants noirs mathématisés, qui ont des problèmes spécifiques, notamment dans le continent européen, et progressivement amener ces produits-là en Afrique, parce que c'est là où il y a réellement notre clientèle en Afrique, et même, je dirais, partout dans le monde. Puisqu'il y a des Noirs un peu partout, il y a aux Antilles, aux États-Unis un peu partout, en Europe, etc. etc. Donc notre ambition est grande.
Alors ces produits-là, ça fait longtemps qu'on a des produits pour peau noire, évidemment d'abord pour les femmes, hein, qui sont de grosses consommatrices, qui consomment un budget important d'ailleurs. On sait que les femmes qui ont des peaux noires consacrent un budget important pour soigner leur peau. Aux États-Unis, il y a déjà des marques comme ça pour les bébés et les enfants.
Tout à fait.
Parce que ce sont des spécificités.
Alors, il y a des marques comme ça aux États-Unis, il y en a plein d'ailleurs. Nous, on est très en retard en France sur ce genre de produits. Et aujourd'hui, Onea, c'est peut-être la seule gamme aujourd'hui en France destinée aux bébés peau noire mathématisée. Donc, après, la différence avec les États-Unis, c'est la législation. Parce que, comme vous l'avez constaté, c'est une gamme pour les bébés. Donc, les bébés, c'est très, très, très contraignant à faire les produits. Il y a des normes européennes et françaises qu'on doit respecter.
Plus contraignantes qu'aux États-Unis.
Plus contraignantes qu'aux États-Unis. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, on a choisi ce pari-là. On a choisi peut-être quelque chose difficile à faire. Et ensuite, on a tout le chemin pour faire peut-être d'autres produits beaucoup plus simples.
Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement en priorité pour un bébé qui a la peau noire? Pourquoi il faut une gamme spécifique pour eux d'ailleurs, par rapport à leur maman?
Alors, c'est une très très bonne question. Et cette question-là, je la pose souvent d'ailleurs au moment que je rencontre tous les jours. Parce que l'idée de départ, c'est de faire apprendre à ces mamans-là leur peau et leurs cheveux qui ont des particularités. Donc la peau noire, c'est une belle peau à condition d'être bien entretenue. Et les cheveux, c'est pareil. Mais sauf que les mamans ne connaissent pas leurs cheveux et ne connaissent pas leur peau. Et l'autre problématique, c'est que la plupart des mamans aujourd'hui à qui on s'adresse sont souvent en Europe, puisque les produits aujourd'hui sont ici. Et donc, il y a le climat qui intervient. Et donc, le climat, c'est un élément important qui fait que, aujourd'hui, si vous n'utilisez pas des produits adéquats, vous allez voir que votre peau se dégrade progressivement et on tombe sur des pathologies qui sont de plus en plus récurrentes aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'informer les mamans sur la peau de leurs enfants et leur peau aussi, et ensuite utiliser les bons produits qui ont été formulés spécialement pour ces enfants-là.
Donc là, vous travaillez beaucoup avec des produits à base de beurre de karité. Bon, là, tout le monde connaît les vertus du beurre de karité, c'est pas très nouveau.
C'est souvent ce que les gens pensent. Quand j'interroge les mamans en général, elles me disent qu'elles connaissent le beurre de karité. Quand je pose des questions un peu plus pointues sur le beurre de karité, là, j'entends moins de réponses très intéressantes. Donc, le but, c'est ça aussi, parce que le beurre de karité, effectivement, c'est un actif qui est connu en Afrique. La plupart des mamans l'utilisent. Nos grands-mères l'ont utilisé jusqu'à présent et continuent à l'utiliser. Mais on ne voit pas au fond des choses pour apprendre à connaître réellement le beurre de karité.
Donc, Didier, à côté, vous utilisez du beurre de karité, non?
Tous les jours, moi aussi.
Bon, des propriétés très hydratantes, assez émollients aussi.
Oui, quelles sont les vitamines qu'il y a dans le beurre de karité?
Oh là,
Didier, effectivement, il n'y a plus personne. Donc, Donc c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait, parce que les actifs qu'on a utilisés, notamment le beurre de karité, c'est les mamans qui l'ont choisi. Parce qu'on a eu un panel de mamans à qui on s'est adressé, et c'est elles qui ont choisi cet actif-là, parce que cet actif-là est connu, c'est même un produit noble en Afrique. Hein, donc, et l'arbre de karité, ça s'appelle l'arbre de Dieu, et c'est pas pour rien, parce qu'elle a énormément de vertus, elle pousse tout seul dans la nature, et donc ça a des vertus vraiment très très intéressantes, c'est pour ça qu'on le travaille. Et puis elle a une double propriété, c'est qu'elle s'adapte dans son environnement. Le beurre de karité, quand vous l'utilisez ici, ça a une texture beaucoup plus compacte. Quand vous l'amenez en Afrique, ça devient quasiment de l'huile. Donc c'est un produit,
c'est
un
actif. Ça, en Europe, il faut le chauffer dans la main longtemps.
C'est un actif qu'on a choisi exprès, justement, pour son adaptabilité, justement.
Mais alors, aujourd'hui, vous avez votre gamme est commercialisée dans des pharmacies, dans des parapharmacies. Quelles sont un peu les questions que vous souhaitez discuter avec Didier Akwété sur le futur de votre entreprise, sur l'expansion géographique?
Alors, les questions sont généralement d'ordre financier, puisque tout chef d'entreprise est à un moment donné confronté à cette difficulté-là, c'est-à-dire trouver des moyens financiers pour développer l'entreprise. Aujourd'hui, on est clairement à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé avec des fonds propres, avec des soutiens aussi des amis pharmaciens qui font partie de la structure.
Pourquoi vous avez commencé en France et pas en Afrique, d'ailleurs?
Alors, j'ai commencé en France parce que la cosmétique en France est très cotée, notamment en Afrique et partout dans le monde. Donc moi je suis venu ici, j'ai fait mes études ici, j'ai côtoyé des spécialistes en dermatologie, donc j'ai appris énormément de choses. Donc l'idée c'est de faire des produits qualitatifs avant tout, c'est ça la base de ce qu'on fait.
Et de capitaliser sur cette expérience-là en France pour ensuite...
Les ramener progressivement en Afrique.
Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, Didier Akwété?
Non mais c'est une bonne idée, c'est vrai que d'abord la question qu'on se pose toujours dans un premier temps, est-ce qu'il y a un marché? Oui, il y a un marché, et en plus ce marché est considérable en Afrique, puisqu'a priori la cible est en Afrique. Si le positionnement prix, la distribution est bonne, et dans ce sens c'est Emma a raison, surtout s'il a éprouvé le produit ici avec les normes qualité, les normes sanitaires qui sont tellement exigeantes et requises, ça fait du coup de son produit un produit entre guillemets crédible. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique, on ne fait pas des produits crédibles, mais il a fait la démarche inverse.
En tout cas, ça y est, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la cosmétique et les produits dermatologiques pour la peau sur le continent africain. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde sur ce secteur-là?
Ah bah non, justement, sur un continent à 2 milliards d'habitants qui va passer à 4-5 milliards, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde et pour les produits de qualité. Et donc, je pense que la démarche qui consiste à dire on a un modèle de réussite en France, on va l'exporter maintenant en Afrique, a du sens, à condition, de mon point de vue, également de délocaliser la production en Afrique. Et du coup, là, pour la question de financement, je crois que c'est là où des fonds d'investissement peuvent s'intéresser au projet de EDEM.
Importer des noix de karité en France, fabriquer et réexporter, ça ne tient pas debout.
Enfin, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. La matière première, de toute façon, elle est en Afrique. Donc, je pense que, idéalement, ce serait que plus tard, on puisse avoir des structures de fabrication sur place, ça facilite tout justement. Donc
à
on
quel
est
pays
plus
vous
proche.
Pensez alors? Vous achetez vos noix de karité au Burkina Faso ou
alors,
dans des pays
le Burkina Faso effectivement est connu comme le meilleur acteur sur le marché pour le beurre de karité tout simplement, mais c'est pas le premier producteur. Le premier producteur je crois c'est le Nigeria, mais le beurre de karité a été beaucoup développé au Burkina Faso parce qu'ils ont compris très rapidement le développement de cette matière première là, donc ils ont mis en place des filières justement. C'est pour ça qu'on parle souvent de beurre de karité qui viennent de Burkina. C'est eux qui produisent le moins en Afrique.
Ah oui, d'accord.
Mais ils ont su mettre la main très rapidement sur cette matière première-là.
Sur le côté qualitatif.
Tout à fait.
Alors vous, comment vous voyez les choses pour votre expansion et surtout quels sont les conseils de Didier du coup pour relocaliser en Afrique?
C'est un beau projet d'internationalisation. Et c'est vrai, selon la stratégie de EDEM, dans un premier temps, c'est peut-être déjà distribuer le produit pour le faire connaître dans les circuits ou traditionnels pharmaceutiques ou alors dans les supermarchés qui ont des corners produits bébés, soins de la peau. Et dans un second temps, passer à la phase industrielle où là, je pense honnêtement qu'ils devraient pouvoir trouver des investisseurs fonds d'investissement ou des banques parce que le modèle testé déjà en France fonctionne. la distribution en Afrique montre que le marché répond, et du coup les investisseurs sont beaucoup plus confortables. Et même parfois, c'est parfois même plus facile de trouver des investisseurs lorsqu'on va sur des nouveaux marchés, qu'on appelle les marchés entre guillemets émergents à forte croissance, qui permettent de financer finalement ce qu'on a démarré dans des pays européens. Et donc,
c'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait d'avoir une usine demain en Afrique qui est financée par des investisseurs lui permet d'exporter son produit ensuite vers la France parce qu'il a réussi à développer une base industrielle en Afrique assez forte avec des financiers. Ce n'est pas pour rien que certaines entreprises, par exemple, se développent en Afrique, mais viennent se lister sur les marchés occidentaux, par exemple, pour lever des ressources. Donc, c'est aussi une idée, en tout cas en matière de développement, mais sur peut-être lequel EDEM peut nous donner quelques éléments.
Oui, c'est effectivement, toutes ces solutions-là, on les a en tête quelque part, parce qu'on le voit de plus en plus, le Made in Afrique se développe de plus en plus. L'avantage de l'Afrique, c'est qu'on a toutes les matières premières qui sont disponibles aujourd'hui. Maintenant, il faut structurer tout ça pour que on puisse mettre en place des industries, parce qu'on ne produit pas beaucoup en Afrique. C'est ça notre problème. Donc, il faut pouvoir produire en Afrique, avoir les industries sur place. Et du coup, il y a une action, effectivement, sur les coûts de production aussi. Et donc, on peut peut-être les exporter beaucoup plus facilement en France et avec des coûts moindres.
Mais ça, sur le Made in Africa, bon, tout le monde est d'accord. Mais enfin, quand on contacte des investisseurs, que vous répondent-ils exactement? Ils veulent d'abord voir votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous faites en France ou ce que vous pourriez faire sur le continent africain? Ou est-ce que vous voudriez vous implanter d'ailleurs en priorité? Dans quel pays?
Aujourd'hui, clairement, le projet il a démarré ici. Donc, on va accentuer ce produit-là, notamment en France, pour que les produits soient connus. Et ensuite, progressivement, on va aller en Afrique. Donc, quand je dis l'Afrique, c'est tous les pays africains, hein, sans restriction. Donc, voilà. Et puis, le but, c'est vraiment de mettre à disposition ces produits-là de qualité à la disposition des mamans, parce que il y a un réel intérêt. Et puis, une demande qui est là aujourd'hui. Je vous dis, aujourd'hui, en France, on est quasiment la seule gamme qui fait des produits pour les bébés enfants. Moi, je discute beaucoup avec les mamans et je me mets à la place des mamans. Une maman qui vient d'avoir un enfant, elle veut toujours le meilleur produit pour son enfant. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'inverse. Or, les produits qu'on trouve aujourd'hui ici ne sont pas forcément adaptés à ces mamans-là. Donc, on répond déjà à la demande ici et puis progressivement, on va en Afrique pour pouvoir s'installer progressivement.
C'est vrai que ça semble évident et pourtant, effectivement, il n'y a pas vraiment d'offre pour cette cible-là.
Non, effectivement, c'est un très beau positionnement. En fait, le cas d'EDEM, je crois, résume assez bien différentes problématiques qu'on aborde dans l'émission avec les porteurs de projets. Un segment qui n'est pas occupé, une offre originale, un circuit de distribution adapté. Maintenant, il faut le faire croître et aller sur l'international. Et ça, c'est toute la question d'EDEM. D'abord, comment renforcer sa position en France, donc en produisant plus, en étant plus présent, en optimisant ses coûts. Et puis, stratégie d'exportation, quels sont ses partenaires, comment ils distribuent, et ensuite, comment il industrialise quand il se base en Afrique pour servir son marché africain. Donc, je pense que les
perspectives sont intéressantes. Votre conseil, c'est de contacter des financiers sur le continent africain?
Alors, c'est de commencer par ici, parce que vous avez des fonds d'investissement qui investissent aujourd'hui en Afrique et qui peuvent accompagner son projet de développement en Afrique. Mais il faut qu'il prouve d'abord que son produit fonctionne sur le continent. Et c'est en ça que c'est intéressant de commencer à distribuer ses produits et voir que le marché répond. Et là, un financier sera beaucoup plus à l'aise pour l'accompagner dans sa stratégie industrielle.
Une consommatrice togolaise à Lomé, là, aujourd'hui, si elle veut vos produits, comment elle fait? Elle les commande?
Elle l'a déjà, puisque le Togo fait partie des pays qui ont la chance d'avoir le produit pour l'instant.
D'accord.
Donc, puisque
elle
je suis d'origine togolaise.
Sur Internet. D'accord.
Alors, on a mis aussi en place des structures, justement, pour le e-commerce, justement, pour faire connaître ces produits un peu partout et les clients puissent les commander.
Et puis sinon, on demande tout simplement à une voisine, hein, quand elle vient en France, de venir
rapporter.
C'est une autre solution aussi.
Bon, merci en tout cas d'être passé nous voir, EDEM. Mais justement, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va donner la parole à un autre porteur de projet. Alors là, pour un projet qui n'existe pas encore, pour de la commercialisation de savon. C'est fou en ce moment ce que ça bouge dans le domaine de la cosmétique et des produits d'hygiène. On vous rappelle tout de suite le numéro de téléphone, les voisins.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
C'est le rendez-vous des jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent avec vos projets, qu'ils soient démarrés ou encore tout à fait balbutiants. En tout cas, c'est l'occasion de dialoguer avec le coach Didier Akouété. Bonjour Youssouf.
Bonjour Emmanuel, bonjour Bastide, bonjour auditeur.
Vous nous appelez d'Abidjan. Je crois que vous êtes de Boaké à l'origine.
Je suis né à Boaké, je suis de Tchéné, précisément de Tchéné.
D'accord. Ah, d'accord. Vous avez en tout cas fait un BTS en finance comptabilité en Côte d'Ivoire.
Exactement.
Vous avez aussi suivi une formation en entrepreneuriat et en management. C'est important aussi de le dire dans le cadre de votre parcours. Et votre projet, c'est de fabriquer, de commercialiser du savon à base de plantes. Le projet s'appellerait Nafigen. Nafigen. Vous avez été, je tiens à le dire, finaliste du concours de start-up Total Challenge l'année dernière. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai vu ce projet, je me suis dit bon, bah quand même, c'est pas très nouveau, du savon à base de plantes. Vous êtes parti d'un constat sur les produits actuels sur le marché, c'est ça?
Oui, exactement. Nous sommes rendus une fois à Divo pour une action intérêt public avec mon club, le Rotary Club Excelsior.
Oui.
Et nous avons reçu des plaintes des autorités vu la fabrication artisanale, l'impact de la fabrication artisanale du savon Kabako sur l'environnement et également sur les habitants de la Côte d'Ivoire en général. Alors, c'est ce qui nous a inspiré. Alors, nous avons décidé de créer une unité de fabrication de ce savon, le moderniser et le mettre à la disposition de la population ayant le moindre... N'ayant pas un portefeuille à assez chargé, parce que vu le taux de paupérisation en Côte d'Ivoire, serait une aide à ma communauté, à toute la Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire que vous partez du principe que le savon à l'heure actuelle commercialisé, très peu cher pour les populations qui n'ont pas beaucoup de moyens, est un savon qui est toxique pour l'environnement, où il y a trop de produits chimiques dedans. C'est bien ça?
Exactement. Nos mamans font cette réaction de saponification de façon artisanale. Elle ne maîtrise pas le dosage, elle ne maîtrise pas la chaleur à laquelle il faut mettre la réaction. Elle dépasse les 100 degrés et ce qui fait que nous avons à la fin un produit toxique avec un pH très élevé.
Ah bon?
Alors que nous avons exactement, nos mamans ont souvent des maladies au niveau des ongles qui est dû à ces savons. Et ces savons Kabako en contact de l'aluminium, il les rend gris, sombre. Ce qui veut dire qu'il y a une réaction chimique. Donc le dosage, le pH n'est pas mesuré, il n'est pas neutre. Mais il a un impact très négatif sur l'environnement, sur les populations qui l'utilisent.
Donc ce savon, il est fabriqué de manière tout à fait informelle.
Exactement, de façon informelle, de façon artisanale par des personnes qui s'installent partout en Côte d'Ivoire.
Mais comment vous comptez proposer un produit de substitution qui ne sera pas toxique pour la peau, pas corrosif, si j'ai bien compris, avec des prix tout aussi compétitifs?
Comme je vous l'ai dit, notre équipe est constituée de chimistes qui fait mon procès de maison, M. Kamara Inza, à qui nous avons fait appel. Il viendra pour le dosage, pour la mesure du pH et pour la mesure de la quantité de chaleur pour la réaction de saponification.
Vous avez, je crois, mis des fonds propres dans ce projet, à peu près à hauteur de 30% du total du montant du projet, notamment pour acquérir un terrain. C'est toujours l'éternel problème.
Exactement.
Parce que, vous voulez monter une petite unité de fabrication, c'est ça?
Oui, exactement. Nous avons pour objectif de monter une petite unité de fabrication de ces savons, mais en savon modernisé, en Kabako modernisé, pas le Kabako que nous connaissons aujourd'hui. Parce que quand vous entendez Kabako, ça veut dire caillou, quelque chose qui est dur. Et comme la population n'ayant pas les moyens, vu le taux de paupérisation, ils préfèrent utiliser ce savon qui coûte moins cher, mais très dangereux pour la santé. Parce que cette réaction de saponification que nos parents le font, ils utilisent l'hydroxyde de potassium. Et une fois que le taux d'hydroxyde de potassium est très élevé dans la réaction de saponification, nous avons ce savon qui devient dur.
Ouais. Mais votre savon va être commercialisé plus cher de combien par rapport à ce savon très bas de gamme?
Pas cher. Par rapport au savon haut de gamme qui coûte plus cher, nous avons prévu pour le savon de 400 grammes, nous allons le vendre à 0,45 €.
Combien?
Soit 0,45 €.
À 0,45, d'accord.
Ah oui.
300 francs CFA, je voudrais dire.
Ah oui, 300 francs CFA, d'accord, oui. Donc ça, d'accord, ça reste une somme assez accessible. Vos questions précisément à Didier Youssouf, rapidement.
Ma question à M. Didier Akouété est de savoir comment nous pouvons bénéficier d'un financement. Parce que vu notre participation au challenge Total Startup, nous avons été parmi les 10 meilleurs. Mmh. En présence de tous les banquiers, nous avons défendu nos programmes. Ils n'ont retenu que 3 et les 7 autres projets n'ont pas été financés. Mmh. Donc nous voulons savoir comment nous pourrons bénéficier d'un financement. Et nous voulons également poser la question à M. Didier de savoir comment est-ce que nous pouvons percer le marché et comment nous devons, c'est-à-dire ramener les personnes qui utilisent déjà ces savons Kabako vers le nouveau savon Kabako qui sera moderne. Oui. Et comment faire changer d'habitude en fait à la population.
Ah oui. Alors ça c'est toujours compliqué de faire changer les habitudes quand même des consommateurs. Hein. Effectivement, donc proposer un nouveau savon qui va être suffisamment agréable. Et puis finalement, le problème des financements, vous êtes finaliste dans un concours, bah, par définition, si vous n'avez pas gagné parmi les 3 derniers, les 3 premiers plutôt, et bah, vous n'avez pas de financement.
Oui, non, mais enfin, il peut avoir un financement, mais... Je connais malheureusement très peu de start-up qui, tout en ayant gagné des prix, ont un financement bancaire. Et encore, les compétitions, Bamako l'a montré. À mon avis, vous devrez certainement apporter un peu plus de cash sur la table, donc avoir un peu plus de fonds propres pour démarrer l'activité. Les banques suivent très peu. Ou alors, vous devez vous adresser à ce qu'on va appeler un fonds de garantie qui peut venir garantir le financement qu'une banque va vous octroyer, d'autant plus que les montants ne sont pas très élevés a priori. Mais bon, en utilisant la garantie, ça vous coûtera un peu cher. Donc, à mon avis, les 30% ne sont pas suffisants. Vous devrez apporter un peu plus de cash. Sinon, par expérience, les banques ne vont pas suivre. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire démarrer le projet à petite échelle et essayer, comme vous le disiez, de faire changer les habitudes. Alors, vous adressez à une cible qui est très difficile en termes de changement d'habitude s'il n'y a pas un avantage clair comme l'avantage prix. C'est-à-dire, si vous dites le savon, on va le vendre 300 francs parce que la concurrence, enfin, les produits chimiques qu'ils utilisaient à 400 francs, vous avez un avantage concurrentiel. Sinon, ce n'est pas une cible qui est très sensible de prime abord à la qualité parce que la première sensibilité, elle est relative au prix. Donc, l'analyse concurrentielle que vous avez faite, si elle vous montre effectivement qu'en termes de prix, vous êtes très bien positionné, là, vous pouvez impacter le marché. Deuxièmement, c'est un marché de démonstration. C'est-à-dire, il faut pouvoir démontrer qu'effectivement, ce produit apporte des avantages significatifs et de différenciation pour que cette population puisse être sensible à vos arguments et du coup développer le marché avec certainement des distributeurs que vous devez avoir dans les marchés, parce que c'est vraiment un produit de terrain au début.
Oui, ça me fait penser à une célèbre marque de farine pour bébé, hein, qui s'est implantée dans les marchés
exactement.
En Côte d'Ivoire et qui pourtant avait un géant en face d'elle. Hein, preuve que tout est possible. C'est vraiment ce qu'on appelle des produits pour les classes très populaires.
Hein, exactement, donc, et là c'est vraiment
bottom of the
terrain. C'est les vendeurs, les vendeuses que vous allez associer à votre projet très en amont, qui sont dans les marchés, qui vont vous permettre de pénétrer le marché et de montrer qu'il y a une différence avec beaucoup de démonstrations, des produits gratuits que vous allez donner au début et qui vont vous coûter forcément un peu cher. Vous êtes finaliste d'un concours, un peu de cash, je ne vois pas une banque. Il faut vous débrouiller pour avoir soit des fonds qui accompagnent les start-up, donc les jeunes porteurs de projets comme
vous. Mais c'est un projet intéressant,
hein,
ceci dit. D'abord parce qu'il s'adresse...
Enfin,
il y a des volumes possibles importants, hein,
C'est un projet intéressant, mais c'est des projets extrêmement concurrencés. Parce qu'ils sont sur des marchés très généralistes et très génériques.
Et avec une grosse population potentielle.
Avec des produits pas chers, où l'entrée se fait sur le marché par le prix. Et les gens sont prêts à acheter des produits dévastateurs, sauf que le prix...
Il va falloir être très agressif commercialement.
Bah oui, et puis seulement aussi, ce que je veux lui dire, c'est que s'il n'a pas les moyens de faire un produit, je dirais, très bas de gamme, mais assurant une qualité pour un marché assez vaste, peut-être qu'il faut qu'il change de segment de marché, comme ce qu'on a vu avec Sandrine, qui fait des produits à base de plantes.
Oui, mais là, beaucoup plus haut de gamme. Hein.
Oui, mais attention, c'est ce que je veux dire, parce qu'elle aurait pu aller dans un positionnement cheap, mais elle ne peut pas, parce que les gens ne peuvent pas acheter
à ce prix-là. Alors, soit il faut retravailler avec les chimistes, soit, Youssouf, il faut changer de positionnement commercial et vous adresser à une cible un petit peu plus nantie.
Oui, et puis surtout, parce que sa question, c'est le financement. C'est qu'à mon avis, pour l'instant, ça m'étonnerait que des banques suivent, par expérience. Donc, le crowdfunding, on en a parlé un peu tout à l'heure, ça peut vous aider. Trouver des fonds qui aident les jeunes parce que vous avez été finaliste, ça va vous aider aussi. ou alors un petit fonds de garantie ou du microcrédit qui coûte un peu cher, qui pourrait vous accompagner, mais vous n'avez pas encore d'expérience. Et du coup, juste pour terminer, n'hésitez pas à voir s'il y a une fabrique de production dont vous pouvez utiliser également les chaînes, parce qu'a priori, la méthode de fabrication est un peu proche, pour éviter que vous fassiez l'investissement en outils de production dont vous n'avez pas les moyens aujourd'hui.
Youssouf,
c'est ce qu'on appelle la coopération.
On va vous laisser parce que Didier à côté est censé nous faire tout de même chaque mois un petit point sur le business plan. C'est la chronique business plan. Bonne chance Youssouf. Copie à revoir pour le moment, mais on y croit à ce projet. Didier à côté, vous souhaitiez développer un point précis du business plan parce que souvent vous critiquez les business plans. Vous dites qu'ils ne sont pas toujours très bien faits.
Alors effectivement, très rapidement, c'est ce qu'on appelle l'analyse SWOT, S-W-O-T, en anglais ça veut dire strength, weaknesses, opportunity et threat. En français c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Et vraiment ça, c'est une sorte de quatre blocs, un grand carré avec quatre carrés dans lequel vous analysez vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, les menaces. Et vraiment, ça, c'est la base de ce qu'on appelle l'analyse stratégique.
Mmh. On y reviendra, Didier, parce que ça vaut beaucoup plus de temps que 45 secondes.
Je suis d'accord, mais qui garde à l'esprit, soit qu'ils aillent sur Internet, SWOT,
allez,
et ils verront ce que c'est,
ça.
On en parlera la prochaine fois.
On se retrouve demain pour 7 milliards de voisins.